Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous, bon réveil. Come sta Raffaelito, ci sei?
Ah, ci sono Michel. Malgré tout, je suis avec quelques péripéties, mais je suis rentré à Paris quand même.
Voilà. Alors aujourd'hui, l'émission est un peu particulière puisqu'on prend l'antenne à 9h. Donc en fait, normalement c'est 9h30, mais on va faire de 9h à 10h30 un programme très très chargé. Je vous propose donc aujourd'hui dans cette deuxième partie de Cappuccino, voilà, on va avoir à l'honneur le lycée Buffon du 15e arrondissement, comme l'année dernière, hein, où ils nous avaient présenté les 100 ans du fascisme en Italie, et avec comme invité Cristana Biche.
Bonjour. Bonjour.
Et puis Louis Darac.
Bonjour.
Et Sandra Milo, leur professeur de Monza.
Bonjour à tous. Bonjour. Merci à Michel de nous accueillir. Merci à Aligre FM.
Voilà, on s'est dit, bon, ça serait sympa aussi de faire comme l'année dernière une présentation de ce que vous avez fait encore cette année. L'année dernière, vous aviez fait un thème qui était, puisque c'était les 100 ans du fascisme, 1923-2023, vous avez fait donc toute une émission qui avait duré une bonne heure et demie, hein, je crois, et pour expliquer comment le fascisme était arrivé en Italie, avait pris le pouvoir. Et là, alors là, c'est complètement différent. Là, c'est sur le salon de la littérature italienne, enfin française, mais c'était l'Italie qui était à l'honneur au mois d'avril.
Effectivement, Michel, on a profité un petit peu de l'actualité pour préparer une nouvelle émission. D'ailleurs, on remercie de nouveau Aligre FM qui nous donne la possibilité de mener ces ateliers pédagogiques autour de la radio. Et donc, effectivement, le Festival du Livre, puisqu'on l'appelle le Festival du Livre, non plus le Salon du Livre, avait un invité d'honneur cette année, c'était l'Italie. Et comme nous étudions la littérature italienne en classe, eh bien, on en a profité, on s'est dit tiens, on va aller faire un petit tour du côté du festival, on va aller rencontrer les organisateurs, des écrivains, on a même vu et interviewé très rapidement Henri De Luca, donc ça c'était un petit peu notre scoop, et puis ensuite on a récolté le matériel, on a travaillé dessus, on a lu des livres également et on a fait des interviews. Voilà, avec Christiana, Louis et toute la classe, on était à peu près une vingtaine d'élèves hein, qui ont travaillé autour de cette émission.
D'accord, alors ce qu'on peut faire, c'est que tu peux quand même rapidement expliquer qu'est-ce que le lycée Buffon et surtout les ESABAC, puisque peut-être les gens, depuis l'année dernière, ne savent pas trop, puis c'est bien, peut-être qu'on va comme ça tous les ans faire cette collaboration. Qu'est-ce que donc ces classes, il y a 3 ans, qui préparent non seulement au bac français, mais à la maturité?
Tout à fait, effectivement, ils ont beaucoup de chance. Donc ça fait à peu près donc les ABAC, ça veut dire c'est un double bac, un cursus binational. ESA pour ESA Medistato, qui veut dire bac en italien, et puis bac pour baccalauréat. Donc en fait, ces élèves qui suivent pendant 3 ans cette filière binationale obtiennent à la fin de leur cursus au lycée un double bac, un bac français et un bac italien, qui leur permet ensuite d'aller étudier en Italie, soit de faire valoir quand même ce cursus, je dirais entre guillemets, d'excellence, parce que c'est vrai qu'ils en font pendant 3 ans, ils en font plus que les autres, ils étudient l'histoire, la géographie en italien, ils étudient la littérature italienne, donc tout ça à raison de 8 à 9 heures par semaine d'italien. D'accord. Voilà, et c'est une véritable joie.
Oui, puis il y a aussi des voyages, on en reparlera tout à l'heure. Alors là, ce qu'on va faire avec Christiana et puis également Louis, c'est que ils ont fait une petite présentation, hein, présentation donc de la prochaine émission qui devrait passer en novembre bientôt.
Tout à fait, le 14 novembre et l'émission sera rediffusée le 17 et le 19 novembre.
C'est le lycée Buffon, donc avec les ESABAC, qui raconte, et on écoute tout de suite la présentation de cette émission par Louis Darac.
Les élèves ESABAC du lycée Buffon font leur retour sur la radio Aligre FM pour une toute nouvelle émission en exclusivité sur le Salon du Livre qui s'est déroulé à Paris. Après des mois de travail et de recherche, ils sont enfin fiers de vous annoncer que leur nouvelle émission sortira très bientôt. Et pour vous donner envie, chers auditeurs, voici l'introduction de l'émission.
Les Abacs vi raccontano.
Bonjour à vous qui nous écoutez, vous êtes sur Aligre FM 93.1 en compagnie des classes de seconde, première et terminale du lycée Buffon. Je m'appelle Héloïse Ducoux et je suis accompagnée par deux autres animateurs.
Je suis Lénie Corbet-Dossou.
Et moi, Louis Darac.
Et nous avons l'intention, en lien avec nos études, de vous faire découvrir à travers cette émission le lien entre les jeunes et la littérature italienne à l'occasion du Festival du Livre qui a eu lieu en avril 2023 au Grand Palais Éphémère, puisque l'invité d'honneur était l'Italie. Cette année, vous l'aurez compris, le thème de l'émission est « Les jeunes et la littérature italienne », car en pleine rentrée littéraire, les Esabacs ont voulu prendre la parole sur le sujet et partager avec vous leur regard, mais aussi leur expérience de la littérature italienne.
Alors, j'espère que ça vous a plu, mais c'était que l'introduction, car dans cette émission, vous retrouverez des micro-trottoirs menés par les jeunes élèves des Esabacs, des interviews d'écrivains français et italiens. Vous retrouverez aussi le côté ludique de cette émission avec quelques instants de rire qu'on a pu avoir sur le plateau ou même des petits moments de bégaiement qui ont donné lieu à des fous rires. Et bien sûr, comme nous sommes une classe d'élèves italiens, vous aurez le plaisir d'entendre des chansons italiennes tout au long de l'émission. Et pour finir, on vous a même réservé une petite surprise avec une musique italienne très connue que vous connaissez sûrement d'ailleurs, chanté en chœur par tous les élèves, dont voici un extrait maintenant.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare.
Et alors, vous êtes à l'écoute d'Aligre FM sur le 93.1, le téléphone, le 01 40 24 29 29. Bon réveil à tous. Bah, rien qu'avec cette chanson, ça y est, on est parti, hein. Bravo les jeunes, bravo Louis, bravo Christiana. Alors,
merci.
C'était sympa d'enregistrer ce petit morceau comme ça.
C'était très sympa, ça concluait bien notre émission et ça nous a fait plaisir.
Louis ?
Ouais, c'était très cool de chanter tous ensemble sur le plateau. On a tous adoré chanter la chanson, ouais.
Ce qui est marrant, juste une parenthèse, c'est que la prochaine invitée, Léa Bucci, qui est journaliste à Télérama, en fait, on s'est connus grâce un peu à cette chanson, puisque c'est quand Toto Cotugno est décédé, et donc elle nous a demandé si on pouvait parler un petit peu de ce chanteur, et parce qu'en fait, en France, tout le monde connaît cette chanson. C'est quelque chose de fou, parce que vous êtes tout jeune, hein, vous avez quel âge ?
16 ans.
16, 18. Louis, 18, 16, 18, voilà. Et malgré tout, cette chanson, elle fait partie du répertoire français, on pourrait dire.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tenu à la chanter, ouais, à la fin. C'était aussi pour lui rendre un hommage et pour dire aussi que les jeunes ne l'ont pas oublié, quoi, ouais, et qu'il fait partie de leur patrimoine aussi.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette émission ? Parce que voilà, c'est sérieux quand même, la littérature. Alors, en plus, vous avez été au Salon du Livre italien là-bas, il y avait plein d'écrivains très connus. Et comment ça s'est passé, Christina ?
Eh bien, moi, personnellement, avec ma sœur Anaïs Biche et Julie Leduc, nous avons interviewé et fait des micro-trottoirs à de nombreuses personnes, de nombreux types de personnes, des libraires, des personnes, enfin des spectateurs ou même des auteurs. Et avec toutes ces informations, nous avons fait une analyse des types de livres, des fréquences auxquelles les jeunes vont en librairie, etc. Et je sais que d'autres personnes ont fait des chroniques. Ont présenté des livres, ont présenté le salon en lui-même.
Louis, tu étais là l'année dernière,
oui.
Tu étais là déjà aussi.
Pour l'émission du fascisme, oui, j'étais là.
Et toi, on sent que tu as envie peut-être d'en faire ton métier, qui sait, peut-être.
Ouais, ça, je ne sais pas encore, mais
ouais.
J'aime bien.
Tu aimes bien tout ce qui est technique, son, c'est toi qui as fait le montage. Hein. Alors, hors antenne, on discutait un petit peu et on s'est aperçu que vous avez quand même des racines un peu italiennes. Hein. Louis, tu as vécu 7 ans en Italie, à Milan.
À Milan, oui, c'est ça.
Ouais.
Enfin, je suis français, mais j'ai vécu 7 ans à Milan.
C'est avec tes parents, donc ils étaient...
Il a été expatrié, mon père, et du coup, on l'a tous suivi.
Donc, du coup, voilà, il y a quand même quelque chose qui est resté. Mmh. Et toi aussi, Christiana?
Et moi, je suis à moitié italienne de ma mère, qui est isquitaine, en face de Naples.
Voilà, à moitié. Alors, c'est ça qui est toujours compliqué, hein, de savoir exactement. On est quoi? On est à moitié? On est complètement l'un et complètement l'autre? C'est difficile, tu verras, avec l'âge. Tu sauras que on a du mal un petit peu. On nous dit, mais t'es moitié-moitié. Non, je suis pas moitié-moitié. Je suis français et italien. Voilà, on a les deux. Et puis, qui sait, peut-être un jour, tu prendras même la double nationalité. Il faudra demander à papa et maman. C'est déjà le cas. Formidable. Et vous, par contre, vous êtes de Ischia.
Oui.
D'accord, un endroit très, très sympa. Vous y retournez de temps en temps?
Tous les ans, plusieurs fois par année, même parfois.
Ouais.
Et ça fait toujours plaisir parce qu'il y a ma famille. Et,
ouais.
Et c'est un endroit magnifique, c'est le paradis.
Et toi, Louis, tu retournes un peu à Milan?
Moi, j'y vais. Pas souvent, enfin, pas tout le temps à Milan, mais souvent, on essaie d'aller une fois par an avec ma famille en Italie. Soit voir des régions qu'on n'a pas encore eu le temps de découvrir ou revoir des endroits qu'on a bien aimés.
D'accord.
Et à Milan, oui, j'ai encore quelques amis, donc des fois j'y vais.
Alors, on va écouter une chanson. Vous avez sélectionné des chansons. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des chansons, il y a pratiquement les années 60, 70 et presque 80. Donc, mais pas forcément des chansons récentes. C'est assez étonnant, mais ça va venir. Je vous ai donné un tuyau où vous écoutez Radio Top Italia et vous allez voir. Vous n'allez plus décrocher de cette radio. Et là, on va écouter Raphaël Écart, à Far la mort et comme une chitou. Pourquoi? Qui veut dire deux mots? Qui l'a choisi? Non, toi peut-être, Sandra?
Oui, non, c'est pas moi qui l'ai choisi.
Ah
mais
bon? Parce que le titre est accrocheur quand même.
effectivement, c'est assez surprenant. Non, ce sont d'autres élèves du groupe qui ont choisi cette chanson. Mais on va dire que ça serait plutôt pour sa légèreté. Raffaella Carrà, représente quand même une icône en Italie. C'est vrai que c'est pas leur époque. Mais en même temps, ce sont des chansons atemporelles, comme on disait tout à l'heure pour Toto Cotugno. Et je crois que les chansons qu'ils ont choisies pour l'émission ont tous en commun d'être légères, comment dire, d'avoir une certaine et de leur proposer une évasion. Voilà, je crois que c'est ça qui est le lien entre les trois chansons, de pouvoir affronter le quotidien avec gaieté, avec légèreté, comme le fait Raphaël Acara.
Et il faut quand même préciser que Raphaël Acara, en Espagne, était très connu, peut-être même presque plus connu qu'en Italie, et ils ont même dédié une place, je crois que c'est à Madrid, Raphaël Acara. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était connu dans le monde un peu hispano, espagnol, et même dans les pays d'Amérique du Sud, il était très connu. Voilà, on l'écoute tout de suite.
Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live
Raffaella Carrà. Voilà, t'as vu. Et oui, il faut dire, j'ai oublié le A, moi. Bon, voilà, moi j'ai la RMO, je sais comment à Torino, non? Tu sais, là-bas, à Turin, dans cette région, ils ont tous un peu la RMO, je sais, parce que il y a un peu le français qui est quand même, qui a des influences. Et les Français ont un peu ce, enfin, ceux qui sont nés en France, ont la RMO, voilà. L'italien, il roule, roulière. Voilà, alors on est avec les Abac et qui racontano et qui sont donc du lycée Buffon et dans le 15e arrondissement. Il y a combien d'élèves dans ta classe, Sandra?
Eh bien, écoute, Michel, il y a 17 élèves par section. Pour l'instant, mais on grandit petit à petit et on n'arrête pas de grandir, de se développer. Ouais. Et je dois dire que les ABAC attirent de plus en plus d'élèves. C'est étrange parce qu'on a l'impression que les jeunes ne s'intéressent plus à la culture, les jeunes ne lisent plus, et c'est pas le cas. C'est absolument faux. Bien au contraire, ils ont soif de connaissances, ils sont curieux, ils sont, on va régulièrement au théâtre, on va au cinéma, on participe à des prix littéraires, on voyage, et ils sont toujours très, très, très partants pour ce genre de projet.
Alors là, on a vu que, bon, Louis et Christiana sont d'origine, enfin, ont des liens avec l'Italie. Est-ce que c'est le cas des autres élèves ou pas du tout?
Alors, c'est très mitigé, en fait. Il y a plusieurs types d'élèves qui s'intéressent à les ABAC. Et alors, effectivement, on a des binationaux, donc certains qui ont un parent français, un parent italien. On a des élèves italiens, également, qui arrivent à Paris, parce qu'il faut le dire qu'il y a quand même beaucoup d'Italiens qui viennent vivre, qui s'installer à Paris. Et puis, on a des élèves qui n'ont aucune origine italienne et qui, en fait, adoptent l'Italie, ou qui ont été adoptés par l'Italie et qui viennent justement cultiver, renforcer ce goût de l'Italie. Et c'est à travers les ABAC et tout ce qu'on leur propose, notamment au lycée Buffon, autour de l'Italie, qui les nourrit et qui leur donne encore plus de passion pour l'Italie.
Alors, Christina et Louis, c'est ça qui vous a attiré dans cette classe des ABAC?
Alors, pour moi, c'était vraiment une opportunité pour mon avenir et c'était vraiment une chance parce que...
Ton avenir? Parce que oui. Tu...
Bah, pour potentiellement faire des études en Italie, à l'international, ouais. C'est une chance, très clairement. Et puis, même tous les projets avec les ABAC, c'est une chance culturelle et ça m'intéressait beaucoup.
Louis?
Oui, moi c'est pareil, moi j'étais en Italie avant, et quand je suis rentré en France, j'avais pas envie de perdre le niveau que j'avais eu en Italie, et je voulais continuer à avoir un lien avec ce pays, donc j'ai décidé de faire les ABAC pour continuer à parler italien, à faire des voyages, à faire des sorties culturelles, pour avoir toujours plus d'informations sur l'Italie et ne pas perdre ce lien.
Alors, on voit avec Sandra, vous faites des sorties. On parlera d'un voyage la semaine prochaine. Enfin, avec des bottes, hein, il faudra des bottes peut-être. Et donc, du coup, on voit qu'au niveau culturel, grâce à Sandra, bon, vous connaissez beaucoup de choses sur l'Italie. Mais est-ce que vous pouvez aussi également vous informer par rapport à la politique? Est-ce que, quelque part, il y a aussi peut-être une sensibilisation à la vie politique italienne? Comment ça fonctionne là-bas ou pas du tout? Ou ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, vous dépasse, non?
Si, avec notre professeur d'histoire-géographie, on a eu tout un chapitre entier sur la politique italienne. On a fait les deux, on a fait France et Italie. Et du coup, on est bien informés.
Vous êtes sensibilisés
Oui.
En EMC avec, pareil, Madame Delamar, notre prof d'histoire-géo, et c'est tout. Et sûrement en terminale.
Des fois, vous avez la possibilité de regarder par les chaînes italiennes, non? Quelques petites infos, comme là, par exemple, quand il y a eu les inondations, vous êtes au courant aussi, quand même?
Enfin, on ne regarde plus trop la télé, mais enfin, en tout cas, moi.
Oui, c'est vrai que les jeunes, la télé, la radio, en fait, je ne sais même pas pourquoi ils sont ici, parce que la radio, ils ne savent même pas que ça existe maintenant.
c'est vrai. C'est compliqué. Vrai que c'est beaucoup les réseaux sociaux, mais ils essaient de s'informer, oui, c'est vrai que la politique italienne en soi est assez compliquée.
Comment fonctionne l'Italie au niveau démocratique, etc.?
Voilà, ça, ils le savent, mais bon, c'est vrai qu'il faut les pousser un petit peu, leur dire, tenez,
c'est comme en France aussi, c'est un peu compliqué. compliqué.
Ouais. Tout à fait.
D'accord. Bon. Mais ça se fait un petit peu rire parce qu'on parlait de la radio. Ils disent la radio. Donc, si vous écoutez plus la radio, donc en fait, c'est les podcasts que vous écoutez.
Oui.
Oui, c'est ça. Non, même pas forcément. C'est...
Non, par exemple, si on va en voiture ou je sais pas si on fait un trajet en voiture. Ouais. Moi, par exemple, souvent, je mets la radio, oui.
Oui, dans les voitures, hein, ça reste encore. Mais à l'extérieur, si la télé chambre, et la radio, c'est un truc qui est complètement
avec
démodé.
Les parents, sinon.
Mais... C'est fou, hein. Ouais, c'est ça.
Quand avec les parents.
Comment vous informer alors? Comment? Parce que si on n'a pas de télé, on n'a pas de radio. Les journaux, ça n'existe plus non plus. Vous achetez plus de journaux, c'est fini.
Non.
Plus,
non, voilà. Sur les réseaux sociaux.
Ah ouais,
il y a des chaînes qui font que ça, la formation.
Et c'est pas un danger parce que on s'aperçoit que les réseaux sociaux,
ah bah
c'est tout et n'importe quoi. Mmh. Quand on a juste qu'une source d'information comme ça, enfin bon, ça c'est un autre débat. Hein, peut-être qu'il faudra qu'on ressente ça là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les jeunes fonctionnent aujourd'hui. Et voilà. Donc vous voyez, c'est bien une émission de radio aussi. Ouais, allez, faut demander à papa d'acheter une radio avec le DAB aussi, comme ça vous écouterez la radio un peu partout. Super. Alors, on va parler après de voyage et puis toujours des activités. Puis là, on va repasser une musique sympa. Là, on est dans les années... c'est 99. C'est Luna Pop, Vespa 50. Ça, c'est quelque chose que, effectivement, je passais aussi beaucoup quand on faisait Cappuccino dans les années 99. Qui l'a choisi? Non, c'est... Sandra.
Eh bien, pareil. Non, les élèves qui ont choisi la musique ne sont pas là, mais là, c'est le symbole, la Vespa. Bon, voilà, c'est le symbole de l'Italie, du voyage, de l'évasion, des vacances. C'est quand on l'a sélectionné en classe, tout le monde se dandinait sur sa chaise. Voilà, c'est magique, hein, Luna Pop.
Ce qui est fou, bon, ça aussi, il faudra qu'on en discute, c'est cette image qu'on a de l'Italie qui est encore la Vespina. Quand tu vois des pubs à la télé, tu vois toujours la Vespina ou la petite Fiat 500, et puis on entend toujours une petite chanson des années 60, et ça marche, quoi. C'est vendeur, quoi, finalement, hein, ça aussi, hein. C'est étonnant parce que autant les Français, peut-être il y a eu des polémiques, je sais pas si vous avez vu l'ouverture de la Coupe du Monde avec justement Dujardin qui avait fait un spectacle avec la baguette, avec la casquette et tout, ça avait polémiqué beaucoup là-dessus. Autant peut-être les Italiens, eux revendiquent le fait que oui, bon, c'est la Fiat 500, c'est la Gelati, c'est tout ça, musique des années 60, Mina et Celentano, etc. Quoi. Hein, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est un patrimoine, ça fait partie du patrimoine italien.
C'est un patrimoine, c'est important.
C'est un patrimoine, ce ouais, c'est culturel. Ça. Et on n'a pas envie de le perdre finalement. Même à 16 ans, ils n'ont pas envie de le perdre.
Ouais. On écoute Luna Pop.
Girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. A marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto.
Nous sommes avec le lycée Buffon et les Abac, surtout, qui vous racontent. Alors, juste, on va redonner quand même les infos pour cette émission que vous avez préparée. Vous êtes combien, là, pour l'émission? Il y a combien de personnes qui ont
participé? Alors, ce sont 20 élèves qui ont préparé l'émission. Oui. Donc, c'est un véritable travail de groupe. Et c'est eux qui ont tout fait. Voilà, moi, je les guide, mais c'est vraiment leur travail, leur émission. Et ils se sont très, très bien débrouillés. Et effectivement, l'émission donc est consacrée à la littérature italienne et les jeunes, et sera diffusée le 14 novembre avec une rediffusion le 17 et le 19 sur Aligre FM.
D'accord, sûrement ça sera donc après Cappuccino, on va voir ça après 11h, mais c'est super. Donc il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que c'est tellement sympa d'avoir des petits jeunes comme ça qui veulent découvrir l'Italie, qui aiment l'Italie, et puis finalement, voilà, on peut faire des choses, des passerelles comme ça, ça avec cette émission, ça pourrait être quelque chose de très sympa.
Et ben avec grand plaisir, Michel, surtout que quand ils découvrent la radio, ils se passionnent également pour ce média, comme tu disais, qui malheureusement est en difficulté, mais je pense qu'il faut juste créer des liens, voilà, leur faire découvrir.
Deux mots sur le voyage de la semaine prochaine.
Oui, le voyage, on part samedi à Florence, en Toscane, même si actuellement
ça va aller mieux.
Hein. Oui, on espère que ça va s'arranger, mais nous avons tous très hâte, car c'est une ville quand même très, très importante de la culture italienne. Et je voulais parler aussi de notre voyage de l'année dernière, à Bari, en Pouille, qui était juste magnifique. On a vu beaucoup, beaucoup de cathédrales, d'églises. Il y avait la mer, il y avait beaucoup de
pâtes choses, également. On a appris à faire des oreillettes. On a découvert super. Les traditions et la culture, l'art. Enfin, c'était vraiment un voyage complet, hein, où on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, n'est-ce pas, Christiane?
Nous avons tissé des liens aussi avec nos correspondants.
Ah oui, il y en a qui sont sympa pour le futur, mais oui.
Exactement. Il y en a qui sont toujours en contact. C'était très intéressant.
Et avec Louis, nous sommes allés à Venise.
Oui, on a fait des correspondants, nous aussi, à Venise. Ouais, c'était très chouette comme voyage.
Ben merci à tous les trois, merci à Christiana Biche et puis Louis Darac et puis Sandra Milo. On peut peut-être juste, parce qu'on a toujours une petite dédicace à faire au papa ou je ne sais quoi, comment on n'en a pas réfléchi. Ah ben c'est vrai qu'ils connaissent pas la radio, hein, ça se voit. Hein.
Va bah, des... D'abord, il faudrait faire une dédicace à Madame Mio parce que
la remercier chaleureusement
pour d'accord. tout ce qu'elle a
c'est
fait.
C'est très gentil, ça me touche énormément.
Tous les projets qu'on a fait ensemble, tous les voyages, même pour la radio, elle nous a beaucoup aidé pour l'émission là. Donc
Ah moi j'aurais eu une prof comme elle, mais c'est sûr que j'aurais été dans les premiers. Hein. C'est certain.
Ah, je vais
rougir. Pourtant j'étais à côté du radiateur, mais là c'est sûr, c'est formidable. Merci à toi justement de pousser la culture italienne. Et la mettre en avant, c'est déjà tellement difficile. Merci à vous trois, et puis faut qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est sûr. Il faut qu'on fasse des liens. Et là, on va écouter Fili delle Stelle, une chanson de 77 qui a fait danser, mais en Italie pendant des mois, et des couples se sont mariés et ont donné des petits-enfants et des enfants qui ont donné des petits-enfants. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.
Merci
ciao.
Beaucoup
ciao.
De
merci
ciao.
Michel. Ciao. Merci Aligre.
Merci,
merci
à vous. Ciao, merci. Ciao.
Spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Per sempre figli delle stelle, senza storie, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato, ma no, e va bene, lo so. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Voilà, oui, il est un petit peu plus de 9h30 parce que finalement, oulala, c'était très sympa avec le lycée Buffon et les Ezabak. J'espère qu'on les, ben voilà, on les retrouvera rapidement dans les locaux d'Aligre. Di nuovo, ciao Raffaelito.
Oui, Michel, hein? Encore bonjour.
Encore bonjour, tu as vu un peu ce qui s'est passé en Italie?
Ben oui, j'en ai payé les conséquences. Hein.
Ouais. Il y a un arbre qui est tombé sur la...
Voilà, sur la voie ferrée. Bon, bah, j'ai dû prendre un taxi et ça m'a coûté...
La peau des fesses, comme on dit en français. Voilà. On souhaite plein de courage à tous ces gens qui sont inondés, que ça soit en France,
surtout en Toscane. Il y a fait quand même 8 morts. Hein. Il y a quand même 8 morts, plein de dégâts.
Et c'est toujours dans ces régions-là, hein, Parme, Piacenza, ça c'est toujours un peu par là. Hein, c'est bizarre. Voilà. Alors, rapidement, je vous donne le programme de l'émission. Donc, nous aurons dans quelques minutes Léa Bucci, qui est journaliste à Télérama et qui va nous parler un petit peu de son parcours et puis également de son travail. Et donc, je voudrais vous donner une information de notre ami Fabrice Giudani de l'association Manitalia. Il nous informe qu'une exposition sur le modélisme va avoir lieu le 11 et le 12 novembre, le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 10h à 17h. Donc, c'est à la salle des fêtes de Mani le 11, 30 rue de la Clé des Champs à Magny-le-Hongre. Donc ça peut être sympa d'aller à cette exposition, surtout que c'est organisé par Derital. Donc exposition sur le modélisme le 11 et le 12. Et puis on rappelle que la CLI propose une réunion d'information en italien sur les loueurs de meublés non professionnels en présence d'un expert comptable. Donc si vous êtes intéressé, c'est le samedi 11 novembre, la semaine prochaine, donc à 10h. Au Acli, France, 28 rue Claude Tillier, dans le 12e. Participation gratuite, réservation obligatoire à info.france@passservice avec un S, tratino, groupe, sans E, .com. info.france@passservice avec un S, tratino, groupe, sans E, .com. Et puis là, on va commencer tout de suite avec le nouveau CD de Laura Pausini qui s'appelle Anime Parallele. Et là, on écoute Durar et puis on aura une surprise juste après.
Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto, che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un destino. C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata ed una da pensare insieme ed una da inventare ed una da capire, ed una da adorare, io e te, ed una da impazzire, io. Meno male che non vuoi dormire, anche se torno tardi, che non ti fa paura se sto male anch'io, ma che ne sanno gli altri. Adesso tu ti prego, chiamami, 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 bambina. Siamo solo un paio d'anime, siamo solo due metafore, siamo quello che ci va. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto, che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un destino. C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare, io e te. Ed una da impazzire, io e te. Mi viene voglia di ridere. Noi ci sembrava difficile. Mi raccomando, torna a casa, facciamo un figlio dopo cena. Mi raccomando, torna a casa. Darmi il tuo buongiorno e puoi portarmi in alto, che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un mattino. C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare, io e te, ed una da impazzire, io.
Voilà, nous sommes avec notre ami Stefano Boss qui est donc dans le téléphone. C'est le président du fan club Laura Pausini. Ciao, come stai?
Ciao Michel, tutto bene, tutto bene ici, le soleil brille à Aix-en-Provence.
Non, t'as pas le droit de dire ça.
En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Bonjour à toute la team de Cappuccino, à tous les auditeurs de Radio Aligre et de Radio Top Italia.
Ben voilà, merci à toi. Donc, il y avait longtemps qu'on attendait ce fameux CD de Pausini. Ça fait 5 ans, je crois, qu'elle n'a pas sorti un nouveau CD.
Exactement. 5 ans après son dernier album qui s'intitulait Fatti Sentire et qui est sorti en mars 2018, Laura Pausini vient de sortir son nouvel album qui s'appelle Anime Parallele. Alors, c'est 16 titres qui racontent 16 histoires vraies de 16 personnes différentes. Un album qui met en lumière le respect de l'individualité et des vrais sentiments. Alors, anime parallèle, âme parallèle. Le mot âme, car Laura préfère raconter les âmes plus que les corps. Et parallèle, car on partage tous les mêmes routes, mais nous avons des chemins de rêve. Nous avons des chemins, des rêves, des souhaits différents. Et l'on doit tous cohabiter en s'aimant et pas en se divisant.
Alors, comment la critique a trouvé ce CD? Comment elle a été accueillie par la critique et puis aussi par le public?
Alors, le public, les fans et la critique sont déjà un très bon avis, puisque cet album est mélodieux et raconte justement les choses qui nous touchent profondément. Et donc, c'était plutôt sympa. Et puis, Laura, qui a fait d'ailleurs une journée spéciale à Milan, elle a privatisé un immeuble Corso Venezia à l'effigie de son nouvel album.
On sait en plus que bientôt, on aura l'occasion pour les Parisiens de la voir à l'Arena Bercy.
Exactement, c'est un album qui annonce une tournée mondiale et un passage par la France à l'Accor Arena de Paris le lundi 12 février prochain. Et je peux vous annoncer en avant-première que grâce à Cappuccino, à Top Italia, à Aligre, nous aurons des places à vous faire gagner et également des coffrets de luxe de ce nouvel album.
Ouh là là, super, il faut écouter alors Cappuccino et puis également Italoscopie et puis Top Italia. Alors toi, tu es président du fan club Laura Pausini. Comment on peut écouter Pausini quand on aime bien, ben voilà, et qu'on a envie de l'écouter, voilà, plusieurs chansons d'elle?
Alors, il y a plusieurs moyens. Alors, si on est un peu plus jeune, comme tes invités de tout à l'heure, on peut écouter notamment les plateformes musicales comme Spotify. D'ailleurs, à cette occasion, il faut savoir que c'est l'artiste italienne qui a le plus de streaming, le plus de téléchargements, puisqu'elle vient de dépasser les 2 milliards de téléchargements, notamment sur la plateforme musicale Spotify. Et puis, on a créé avec quelques amis, en 2014, une web radio dédiée à Laura Pausini, où il y a un titre de Laura Pausini toutes les 15 minutes. Cette radio s'appelle Laura Music Play. Vous pouvez l'écouter sur le www.laurawebradio.com.
Merci Stéphane. Alors, la prochaine chanson, toujours de Pausini, c'est toi qui l'as choisie. Pourquoi ?
Oui. Alors, c'est un coup de cœur pour ce nouvel album. C'est la chanson qui s'appelle « Oltre la superficie ». C'est un titre qui nous apprend à aller au-delà de l'apparence physique d'une personne et des cicatrices que chacun de nous porte à l'intérieur. C'est un peu un hymne pop-rock à la beauté de la complicité entre des âmes qui se sont retrouvées et qui continuent de se choisir jour après jour. Et donc, c'est un beau message positif que je voulais vous faire écouter. Et puis, en parlant de message, je vous laisse avec quelqu'un qui va vous adresser un message spécial.
Merci à toi. Bonne journée. Merci. Bonne journée avec le soleil. Merci. Ciao, Stéphane.
Bonjour, c'est Laura Pausini. Je vous donne rendez-vous à Paris le 12 février prochain à la Cor Arena pour ma tournée mondiale. À bientôt.
Per te che sai leggere i miei dati sensibili e riesci a proteggermi da me. In corsa a correggere il tiro altrimenti sbanderei. Sei la colla degli elementi miei, mi rimetti ogni volta in ordine senza chiedermi niente in cambio mai. Sottolinearlo non vorrei, meno male che ci sei. E sai come fare senza farti male tra i miei sbalzi frequenti d'umore. Riesci a far sembrare anche un errore. Troppe persone non sanno ascoltare quello che dice una cicatrice, non sanno vedere, toccare la luce, come si dice, oltre la superficie. Tu sei l'interprete dei miei geroglifici, a mani nude scali i miei lati più ripidi, ed ho preso nota che farne a meno non potrei. Riesci ad intuire ogni mia espressione, anche con gli occhiali da sole. Fai la differenza. Che dice una cicatrice, non sanno vedere, toccare la luce, andare invece oltre. Troppe persone non sanno ascoltare quello che dice una cicatrice. Oltre la superficie.
Vous êtes à l'écoute de Cappuccino. Bon réveil à tous, le téléphone 01 40 24 29 29 in italiano, Raffaelito.
01 40 24 29 29.
Si, 93 points, hein, on n'oublie pas, et vous nous appelez, on est très contents.
Téléphone sans modération.
Modération, voilà. Et nous sommes avec notre invité, Léa Bucci, qui est journaliste à Télérama. Buongiorno, bonjour.
Et bonjour Michel.
Ça va?
Ça va, merci ouais, beaucoup.
Super, le matin de bonne heure comme ça.
Ouais, c'est pas facile pour moi.
Ça
oui.
tire un peu, mais bon, tu viens de pas trop trop loin, donc
non, ça, va.
Ça va. Alors, c'est étonnant parce qu'en fait, on s'est connus grâce à Toto Cotugno, quelque part, hein, puisque on remercie Rambaldo, qui, en fait, tu avais appelé Rambaldo parce que quand Toto Cotugno est mort, et puis... Je sais pas comment tu avais eu son téléphone, mais du coup, il m'a dit, il m'a appelé, je connais pas grand-chose de Toto, tu veux bien faire l'interview. Et c'est comme ça qu'on a démarré, on a fait une petite interview qui est parue dans Télérama.
Tout à fait, au mois d'août.
Au mois d'août, un très beau article sur notre ami Toto. Et puis, moi, je me suis dit, mais Léa Bucci. C'est un peu italien, ça, non?
Un petit peu,
un
oui,
petit
oui.
peu.
Et, un peu beaucoup.
Un peu beaucoup. Et donc, on s'est dit, mais voilà, il faut l'inviter gentiment. Voilà, tu es venu pour nous parler un peu de ton métier, de tes origines aussi, puisque c'est tes grands-parents qui sont venus, les deux grands-parents qui sont venus de Corrado, un petit village, enfin, non, c'est une ville.
C'est hein. plus un village,
c'est, oui,
maintenant.
C'est plus un village, hein, 48 000 habitants du côté de Bari. Et donc, du coup, on s'est dit, mais ça peut être intéressant parce que, honnêtement, c'est pas bien hein, ce que je vais te dire, mais Corrado, moi, je connais pas.
Oui, alors je pense
j'avais
que
jamais entendu. Mais
c'est
non,
parce
c'est
qu'on
pas
est
sérieux.
À Paris. Oui, oui. Alors,
en
fait, à Grenoble, les gens connaissent parce qu'il y a beaucoup d'émigration croatine à Grenoble. Enfin, il y a eu plusieurs vagues et une grosse vague notamment. Enfin, mes grands-parents sont arrivés pour chercher du travail au début des années 60. Et ils ont rejoint notamment ma grand-mère avait sa sœur déjà qui habitait en France, qui était mariée. Son père à elle aussi était venu habiter en France. Enfin, en fait, à l'époque, dans les Pouilles, on était au fin fond des Pouilles. Il n'y avait pas de travail en fait, donc ils émigraient beaucoup et notamment autour de Grenoble. Donc en fait, moi, je me suis retrouvée à l'école et même encore, j'ai un collègue il y a quelques années avec qui je travaillais à Paris, mais qui venait de Grenoble. Et lui aussi, ses parents, ses grands-parents étaient de Corrado.
Voilà. Et donc, tes parents, en fait, tu me disais en antenne que ton père, lui, ça s'est un peu dilué, son italianité, hein. Donc, mais toi, tu as quand même, du côté des grands-parents, tu avais interviewé ta grand-mère.
Oui, alors je pense que c'est un peu une déformation professionnelle puisque je suis journaliste oui. et donc à force de faire des interviews, je pense que c'était pas très longtemps après ma fin d'études, je me dis mais en fait je ne sais pas grand chose finalement de mes grands-parents italiens puisque ma grand-mère déjà a toujours parlé très très mal français, c'est-à-dire avec un accent italien extrêmement prononcé puis alors à la fin de sa vie elle mélangeait les deux donc des fois on jouait un petit peu aux devinettes pour essayer de comprendre ce qu'elle nous racontait. Et je me suis dit, mais quand même, c'est... En plus, c'était ma dernière grand-mère. À ce moment-là, je me suis dit, dommage de ne pas savoir. Donc, j'ai pris un moment avec elle. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre autant de temps que je voulais, puisqu'elle est décédée quelques années plus tard. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas pu. Mais du coup, je lui ai fait raconter. Et en fait, j'ai appris des choses dont je ne me doutais pas. Par exemple, quand j'étais petite, elle me faisait tous mes costumes de carnaval. Et en fait, en discutant avec elle, j'ai appris qu'elle avait arrêté les études très tôt, à peu près au niveau du certificat, mais qu'elle avait fait une école de couture. Donc, il y avait une dame qui venait de Bari leur apprendre à coudre. Et vraiment, elle a appris à modeler directement sur quelqu'un, faire les patrons. Voilà.
Mais ça, c'est très sympa d'avoir des témoignages comme ça, des personnages. Parce que on oublie de poser des questions ou alors on n'ose pas quand ils sont encore vivants. Puis après, on se dit, mince, quand ils sont plus là, j'aurais dû leur poser telle ou telle question. Surtout qu'ils nous racontent, ta grand-mère te raconte des choses qui datent d'il y a combien d'années 70 ans ou 80 ans
Oui,
arrière,
plutôt
hein.
presque 90 parce que on avait parlé notamment de comment elle avait rencontré mon grand-père, donc il faut savoir qu'on se situe, oui, elle est née au début des années 30, donc on était quelque part dans les années 40, quoi. Et la drague dans les années 40, c'est quelque chose, quoi. Les jeunes hommes, alors ils habitaient le même quartier, mes grands-parents, mais elle m'a dit qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, et je crois qu'a priori elle avait fait une école où il n'y avait que des filles quand elle était petite.
Ah oui, c'était pas mixte à l'école.
Ah oui, non, non. Alors si, elle m'a dit qu'il y en avait, hein, mais qu'elle n'était pas là. Mais alors par contre, c'était les jeunes hommes passaient devant sa maison. Alors il faut savoir qu'en plus, ma grand-mère, c'était l'aînée de trois filles. Donc autant vous dire que je pense que voilà, il devait être...
Ah oui, les jeunes hommes devaient avoir envie de passer. Oui, puis c'était elle la première qu'il fallait marier.
C'est hein, ça. Alors oui, et mais je crois que, enfin, elle disait qu'il passait, il passait. Et je dis mais pourquoi mon grand-père, enfin finalement, parce que dis, ah oui, on a un petit peu parlé. Je crois que sa mère, elle, avait approuvé en disant oui, j'aime bien sa famille à lui. Donc, enfin, ça a été tout un truc, vous savez, progressivement, où fallait y aller un petit peu, invité par la famille. Puis alors, apparemment, le jour où il est venu demander sa main, elle s'est cachée. Elle m'a dit, j'ai eu peur, je me suis cachée. Donc, j'ai dû revenir après. Voilà, c'était quelque chose, ça. Elle s'est mariée en n'ayant aucune idée de comment on faisait les enfants. Donc, elle s'est retrouvée enceinte 6 mois après son mariage. Enfin, c'était d'une autre époque.
Ah oui, c'est fou, hein, comment on s'imagine pas maintenant avec les réseaux sociaux et tout, quand on voit les petits jeunes qui étaient tout à l'heure du lycée Buffon. Voilà, comment il fonctionne et comment ça fonctionnait encore il y a 90 ans, c'est quelque chose de fou. Mais c'était assez romantique quand même, finalement. C'était assez romantique. Bon, après, c'était un petit peu casse-gueule, entre guillemets, parce que si jamais la personne, ben, il ne s'entendait pas très bien, t'étais marié, puis là, c'était pour la vie. Hein.
Oui, après, je pense que la question se posait pas en ces termes à l'époque, quoi. C'est-à-dire que c'était quand même des femmes italiennes qui étaient élevées, qui savaient faire la cuisine, la couture, qui étaient élevées pour faire famille. Et voilà, ma grand-mère, toute sa vie, ça a été la chose la plus importante de sa vie, ça a été sa famille.
C'était pas l'amour, c'était pas la passion.
Je sais, j'ai pas poussé jusqu'ici, mais bon. Mais enfin, il lui plaisait quand même au début, donc il devait bien avoir quelque chose.
C'est super. Alors, on va continuer de parler de tout ça. Tu as choisi les chansons qui vont agrémenter cette interview. Et là, tu as choisi Dalida.
Oui.
Alors ça, c'est assez surprenant. Un po' d'amore.
Vous trouvez ça surprenant? Tu trouves ça surprenant?
Vu ton âge?
Ah, bah alors déjà, non.
Parce qu'après, il y a des chansons qui sont un peu
plus... Je suis pas d'accord,
plus...
parce que Dalida, c'est quelque chose que...
Tant mieux.
Pendant longtemps, on a présenté comme kitsch. En fait, je trouve qu'il y a des chansons magnifiques. Enfin, vraiment, il y a des... Et en plus, il faut savoir que ma grand-mère adorait Dalida, comme beaucoup de femmes immigrées italiennes. Alors, Dalida n'était pas italienne, d'ailleurs, hein. C'est quand même...
Ah, enfin...
Oui, plutôt égyptienne, quand même.
Tunisienne, égyptienne plutôt,
voilà.
Elle est née en Égypte.
Mais en tout cas, elle aimait beaucoup Dalida, et donc c'est vrai que pour moi, ça a toujours été lié à elle. En fait, j'ai choisi cette chanson parce que c'est une des rares que je connais où elle chante en italien. Cette chanson n'est pas une chanson italienne, c'est une reprise des Moody Blues, donc qui sont un groupe anglophone. Mais je trouve que la version de Dalida en italien, enfin, c'est Night in White Satin en anglais. Donc c'est un truc, une chanson que je trouve assez sensuelle, alors que quand Dalida la chante, il y a vraiment cette espèce de supplication où elle lui dit « donne-moi un peu d'amour ». Et enfin voilà, je trouve ça très fort et ça montre vachement son talent d'interprète.
Una preghiera non va mai perduta, vola leggera più in alto del cielo, sopra una pietra nascosta dal tempo, ho ritrovato queste brevi parole, io ti prego, io ti chiedo. Il sole ha bruciato, ora è nato un piccolo fiore, questo vuol dire che ancora una volta il cielo ha sentito una voce che prega e che chiede.
Nous sommes avec Léa Bucci, qui est journaliste à Télérama. Alors, on va donner une petite bio hein, de ton parcours. Hein. Donc, Léa Bucci commence ses études de journalisme en 2011 en pensant se diriger vers la mode et au journalisme de société. Mais en parallèle de ses stages, elle commence rapidement à s'intéresser à la scène musicale locale. À la fin de ses études, elle est embauchée chez Webzine, Mademoiselle, en tant que rédactrice société culture pour lequel elle réalise des interviews longues d'artistes, playlists et comptes rendus de festival. Depuis mai 2022, Léa Bucci exerce comme rubricarde chanson variété pour Télérama Sortir. À ce titre, elle est chargée d'aller voir et de chroniquer les concerts des artistes de chansons de la pop francophone en région parisienne. Elle réalise des interviews et portraits toujours attachés à une date de concert. Elle travaille également en lien avec le service musical de Télérama.
Tout à fait.
Alors, on a vu quand même que grâce à ta prospection là, sur la scène française, de temps en temps, tu trouves un Italien.
Oui, tout à fait.
Parce que tout à l'heure, on aura un chanteur italien que moi, je ne connaissais pas.
Tout à fait. Et j'ai même trouvé, en fait, je me suis aperçue cette année qu'il y avait beaucoup de chanteurs français, alors d'origine italienne ou non, mais qui ramenaient de l'Italie dans leur musique, en fait, ce qui m'a conduit à faire un article au printemps. Enfin, notamment, j'ai interviewé Fiscara, donc, qui vient de Saint-Étienne, mais qui est d'origine sicilienne, donc qui a des grands-parents siciliens. Un garçon qui s'appelle Antonin Appé aussi, donc, qui lui travaille à Marseille, pareil, qui est d'origine sicilienne. Et en fait, c'est des personnes, des artistes de ma génération, donc des trentenaires, mais qui se retrouvent à l'épuiser dans leurs racines italiennes pour ramener ça dans leur culture, même si eux ont été élevés en France et parlent français. Voilà.
Non, c'est intéressant, puisque après, justement, aussi, dans quelques minutes, on aura Roberto Cicogna, que tu as aussi découvert. Et c'est bien parce que c'est des artistes que, bon, honnêtement, nous, on ne connaît pas, et qui nous permet voilà, de faire connaître ces nouvelles générations. Et voilà, peut-être qu'on peut les inviter pour les aider, si on peut. Hein, un petit coup de main, ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc, on rappelle que tu es de Corato. Et alors, on va juste donner juste une petite information parce que en fait cette ville est jumelée avec Grenoble.
Tout à fait.
Voilà. Et tu disais que à Grenoble il y a beaucoup d'Italiens aussi. Hein.
Il y en a beaucoup beaucoup. Et ce que je disais hors antenne, c'est qu'il y a un quai, le quai Saint-Laurent, où il n'y a que des pizzerias en fait. Et historiquement, c'est aussi parce que tous les Italiens débarquaient dans ce quartier. Alors maintenant, je crois qu'elles sont plus tenues par des Italiens, les pizzerias. Ouais. Voilà, comme la restauration. Mais oui, enfin, finalement, on allait là où on avait de la famille.
Il y avait une radio italienne à Grenoble. Je ne sais pas si elle existe encore, mais il y avait une radio italienne à Grenoble. Oui, il y a quelques temps. Alors juste, on va donner quelques infos sur Corato. Hein, comme ça, il y a sûrement des gens qui connaissent. Ils peuvent appeler au 01 40 24 29 29. Donc c'est une ville de 48 000 habitants. Et Corato est située dans la province de Bari et la région des Pouilles. Cette ville italienne donc compte 48 000 habitants. C'est une ville essentiellement agricole jusqu'en 1960. Huile d'olive, amandes, blé, vins, horticulture. De nombreuses industries se sont développées dans les domaines de l'agroalimentaire, l'habillement, notamment les gants, la fabrication de carrelage et de mobilier. Une première vague d'émigrants est arrivée en France en 1900, une autre en 1921 à 1924, juste après la guerre de 14-18, pour aider à la reconstruction de la France en fuyant la famine dans les Pouilles. Une deuxième vague se fait en 1947, où de nombreux Corentins arrivent à Grenoble en quête de travail. Ces émigrations successives ont assuré une forte représentation corentine aujourd'hui à Grenoble. Et c'est comme ça que, justement, il y a même une voie maintenant à Grenoble qui s'appelle la voie sur berge, a été donc dénommée la voie de Corato. Et il y a un jumelage, Corato et Grenoble. Alors, tu disais aussi... la cuisine, ta grand-mère t'a appris à faire des gâteaux, des gâteaux de là-bas.
Je pense qu'elle se retournerait dans sa tombe si elle voyait ce que j'ai fait. Parce que... non, il est censé avoir un glaçage. Et bon, comme tous ces gens qui font la cuisine à 22h, je me suis aperçue que je n'avais pas les ingrédients.
D'accord. Mais alors, ça s'appelle comment?
Alors, ce que vous avez là, c'est des tarali. Donc, c'est les tarals, les gâteaux que vous connaissez peut-être comme des gâteaux salés, souvent avec des graines de fenouil dedans. Donc, celle-là, c'est la version sucrée, donc avec un glaçage au citron, qui sont faites à partir d'huile d'olive, forcément, puisque c'était la spécialité de la région. Et en fait, c'est les gâteaux qu'on fait pour Noël, notamment. Enfin, il y a trois sortes de gâteaux. Et pour Pâques, ma grand-mère, quand on était petit, faisait des versions géantes en forme de cloche, et puis elle collait des petits œufs en sucre dessus. Donc il y a des photos de mes cousins et moi tout petits avec nos énormes cloches, nos tarallis géantes.
C'est voilà. Génial, c'est génial. On fera une photo puis on mettra ça sur Facebook. Tu retournes un petit peu là-bas? Tu as encore...
Alors non, j'y suis allée deux fois. Alors déjà, moi je ne parle pas italien, donc c'est un objectif dans ma vie, mais bon, j'ai étudié l'espagnol à l'école. J'y suis allée une fois quand j'avais 6 ans et j'ai très très peu de souvenirs de ça. Et la deuxième fois, je pense que j'avais 17 ans. Et en fait, mes principaux souvenirs, je pense, tournent autour des repas et de la nourriture. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie où j'ai mangé de la burrata avant que ce soit à la mode et qu'on en trouve partout dans les restos en France. Quoi.
Et
à
l'époque, ça coûte les yeux de la tête maintenant.
Voilà. Hein, et à l'époque, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mozzarella avec de la crème dedans?
Oui, c'est bizarre. Quoi.
Ouais, ça, à l'époque, ça ne m'avait pas plu. Puis maintenant, quand je vois que tout le monde est à fond sur ça, voilà, c'est... C'est assez drôle, mais moi j'ai plutôt le souvenir des gros repas où on fait la première entrée, la deuxième entrée, le plat, on n'en peut plus quoi. Enfin, mais parce que c'est la fête, ils nous reçoivent et du coup ils mettent les petits plats dans les grands.
Les petits plats dans les grands plats, oui, ça a été toujours comme ça en Italie, ça y est encore. Hein. Et c'est vrai que ce qu'on peut un petit peu dénoncer, moi je trouve, c'est que toute cette culture de bonnes choses à manger, hein, des choses qui étaient... des grands-parents, peut-être même de la nonne, et puis encore avant encore. Maintenant, c'est à la mode, alors qu'à l'époque, c'était des produits qui étaient peu chers et populaires. Maintenant, ce n'est plus populaire, c'est hyper cher. Quand vous allez dans un traiteur italien, dans un resto, même une pizza, vous payez 15-20 balles. Vous dites, non mais attendez les gars, là, ouais, ça va pas quoi. Toi, un plat de spaghetti ou voilà, toutes ces choses-là sont devenues très chères, tous ces produits italiens, alors qu'avant c'était assez populaire. Comme c'est un phénomène de mode un petit peu.
Ben, après, je pense que les produits qui sont à la mode pour la plupart n'ont jamais été ce que j'ai mangé. Enfin, moi, j'ai jamais mangé de pizza chez mes grands-parents. J'ai mangé, ils faisaient les bracciole, c'était la viande de bœuf dans la sauce tomate avec plein de cure-dents pour la faire tenir, donc c'était de la viande qui était pleine de cure-dents. Les oreillettes que mon grand-père faisait à la main, les petites pâtes rondes, alors ça par contre effectivement c'est devenu cher, mais je crois que j'ai jamais retrouvé dans un restaurant ce que je mangeais chez mes grands-parents. On faisait aussi le dimanche ce qu'on appelait les coucou-frites. C'est de la pâte frite qu'on ouvrait en deux et dans laquelle on mettait de la mortadella, de la mozzarella, et ça j'ai... Une fois, je suis allée dans un restaurant à Paris où ils faisaient de la pâte à pizza frite et c'était ce qui se rapprochait le plus de ça. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment une recette que je n'ai jamais vue nulle part. Et même sur Internet, je crois que j'ai cherché des années avant de trouver quelqu'un qui venait aussi de ce coin et qui avait fait une recette approximative. Donc oui, ça passe plus par la transmission orale, mais ça reste plutôt des plats de pauvres, enfin, qui venaient être roboratifs et du coup... que je ne trouve pas en restaurant aujourd'hui. Voilà.
Alors, on va passer une chanson encore que tu as choisie, Alessio Peck, moi je ne connais pas, Amore Bipolare, perché?
Alors, Alessio Peck, c'est un chanteur italien qui a participé à un programme d'accompagnement des artistes émergents à Paris qui s'appelle Le Fer. Donc qui fait un super boulot justement pour aider les artistes en développement et ils font tous les 6 mois ce qu'ils appellent la faire partie, donc ils font jouer ces artistes là. Et moi, je me souviens de l'avoir vu là, et c'était très drôle parce que c'est plutôt des artistes francophones. Et surtout, c'est beaucoup de professionnels qui viennent, et les professionnels en concert, il faut savoir que c'est un très mauvais public, c'est des gens qui ne réagissent pas. Et je me souviens de l'attaché de presse en train de rigoler à côté de moi et me dire « Mais regarde tous, ils veulent pas montrer qu'ils aiment, en fait. » Voilà, donc je trouvais ça rigolo.
La squadra di Cappuccino, portiere Raff, difensori Pietro, Renato, Nicole, Cantalina, al centrocampo Lino, Fabrice, Tony, Didier, attaccanti Michele, Francesco.
E Léa peut-être, non? Léa, tu te vois bien dans notre équipe de Cappuccino? Qui ça? Enfin une femme, finalement une femme aussi qui.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas non, mais beaucoup alors, d'hommes.
Égalité, sinon. Égalité. Voilà.
Heureusement qu'il y avait une professeure d'italien avant.
Oui, voilà. Non, normalement, il y en a aussi, mais malheureusement, là, elle travaille. Donc, c'est le problème un petit peu aussi. Nous, on a de la chance qu'on est retraités. Donc, voilà, c'est
oui,
pour
puis
ça.
Profitez-en bien, parce que la retraite, c'est pas pour tout le monde. Donc...
Monsieur, t'inquiète, ça viendra aussi. Mais prends ton temps, vis ta vie. Justement, tiens, on va recentrer un petit peu à ton travail. Donc, tu es journaliste à Télérama. Comment ça se passe? Comment un journaliste aujourd'hui peut faire son travail, même si toi, c'est dans la musique? Donc, peut-être, c'est plus facile. Peut-être qu'au niveau politique, on doit faire attention. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire. Est-ce que t'as une censure, toi, qui est là, tu sens quand même, qui est pas forcément dite?
Alors, moi, déjà, faut préciser que je travaille pour le supplément de Télérama, très exactement, sur les concerts. Et
Mais c'était le ramin, c'était le ramin,
non. Non, non, c'est juste pour, voilà, je veux pas prendre la place de, de quelqu'un d'autre. Non, non, une censure, je pense pas. Après, je pense que c'est comme tous les journaux, il y a des lignes éditoriales, en fait. Enfin, il est évident que si vous travaillez au Figaro ou à Libération, vous défendez pas les mêmes axes. Après, je n'ai pas l'impression de me censurer dans ce que je raconte. Moi, c'est plus où je sais qu'en fait, je parle d'artistes, donc je parle d'êtres humains, que leurs œuvres, c'est une partie d'eux-mêmes. Et j'essaye, en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais de, quand je fais une critique, d'être constructive, parce qu'en fait, je sais ce que c'est aussi que d'être... Enfin, critiquer un travail d'artiste, c'est pas juste critiquer un travail, c'est critiquer une partie de la personne aussi. Donc c'est plus, je pense, à ce niveau-là où j'essaye de... Encore une fois, je dis pas que je réussis tout le temps, mais d'y aller avec une certaine forme de, j'espère, d'intelligence et de délicatesse. Quoi. Mmh.
Voilà. Alors, est-ce que quand on est critique, voilà, de concert, est-ce que tu as une formation musicale? Est-ce que ça peut aider ou pas forcément? Alors, ou c'est ton ressenti qui fait que tu aimes ou tu aimes pas? Parce que ça, c'est toujours un peu compliqué, parce que toi, tu peux aimer, moi, j'aime pas, mais finalement, c'est peut-être bien. Enfin, je sais pas. Ou
bien
pas
sûr,
bien,
non, mais de toute façon, ça reste critiquer l'art, ça reste quelque chose de globalement subjectif. Après, il y a des choses qui font consensus. Ou pas. Moi, il se trouve que j'ai une formation musicale, mais je crois pas que ce soit le cas de tous les journalistes qui sont critiques musique. Enfin, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance petite d'être mise à des cours de musique assez tôt, donc j'ai fait l'éveil musical. J'ai commencé à acheter à l'école maternelle, je crois. Ensuite, j'ai fait de la flûte traversière pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai un diplôme. Enfin, je sais lire la musique. Après, dans mon travail au quotidien, je suis pas en train d'analyser quand je suis dans un concert quelle note joue la personne. Alors oui, si on entend si ça chante juste ou ça chante faux, quoi. Mais je pense, comme tout le monde, doté d'un minimum d'oreilles. Par contre, je pense dans la façon de percevoir si ça m'influence. Par exemple, je sais que j'avais une prof de flûte qui était très concentrée sur la rondeur du son, de pas savoir doser le vibrato, ce qu'on entend dans la voix ou dans le souffle. En plus, j'ai fait un instrument avant. C'est-à-dire pas être en permanence en train de faire comme ça devient pénible pour l'auditeur. Le fait de mettre des nuances aussi quand on joue, quand on interprète. Et ça, je sais que c'est des choses auxquelles je pense quand je suis devant un concert, de façon plus ou moins consciente, mais en tout cas, je perçois.
Alors, il y a le côté aussi technique, parce qu'on s'aperçoit maintenant dans les grands concerts, nous, on va souvent dans les grands concerts, et on s'aperçoit que la technique, maintenant, est omniprésente. Et donc, des fois, on ne sait plus trop si c'est la voix du chanteur ou est-ce qu'elle est trafiquée. Est-ce que toi, tu arrives, ou alors peut-être pas forcément dans ces concerts que tu vas voir, qui sont peut-être des chanteurs qui débutent. Est-ce que tu entends ça aussi, cette
vous
technique?
Vous parlez de l'utilisation de plus de l'autotune,
L'autotune, et puis...
Moi, je suis pas très cliente de l'autotune. Après,
les bandes-sons qu'on peut utiliser pour pas mettre que beaucoup.
Alors,
de...
en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que les bandes-sons aussi, c'est beaucoup d'artistes font ça à leur début, parce que ça permet d'être seul sur scène, et ça coûte beaucoup moins cher de se produire en concert que si vous devez avoir des musiciens. Quoi, si vous dites, je suis artiste débutante, je vais commencer avec trois musiciens autour de moi, tout le monde va vous dire, mais ça coûte trop cher, votre truc. Enfin, on va pas... On peut pas vous faire tourner, quoi. Donc, c'est aussi un moyen de débuter. Après, il y a des artistes. Je pense, par exemple, Eddie De Preto, que tu connais peut-être.
Oui.
Il a débuté avec des bandes-sons qu'il faisait lire avec son petit ordinateur. Aujourd'hui, il a des musiciens sur scène. Enfin, il avait un super batteur la dernière fois que je l'ai vu en festival. Donc, le fait est que quand l'artiste grandit aussi, il a les moyens d'avoir de plus en plus de musiciens. Donc, oui, les bandes-sons, c'est pas idéal, mais il faut bien commencer quelque part. Voilà.
Et l'autotune?
L'autotune, c'est pas trop mon truc, mais ça peut être utilisé intelligemment, en fait. C'est comme toute, je suis pas fermée non plus à aucun type de musique. Enfin, il y a des, ça reste beaucoup d'artistes utilisent comme un instrument aujourd'hui, et ça dépend comment c'est utilisé. Ouais. C'est une sensibilité.
Faut expliquer aux auditeurs, donc l'autotune, ça modifie.
Ça déforme la voix.
La voix, ça la déforme comme un écho, et c'est plus la voix du chanteur. Donc moi je trouve que c'est comme à San Remo par exemple, grand festival italien, on utilise souvent maintenant l'autotune. Donc va savoir si finalement le chanteur il a une belle voix ou pas. T'enlèves l'autotune, t'as des surprises, quoi.
Oui, mais après il reste les paroles, il reste la composition. Il n'y a pas que des chanteurs à voix non plus, donc
un chanteur ça doit pas forcément avoir de voix pour toi?
Alors si, je pense que je suis sensible aux voix, aux voix rondes, aux voix assez profondes. Après, il y a des chanteurs qui n'ont pas entre guillemets, pas de voix et qui me touche beaucoup par leur écriture.
Alors, on va écouter Roberto Cigogna, qui, je crois, est arrivé. Donc, on va écouter, c'est aussi un chanteur que tu as découvert.
Oui, alors ça, c'est un hasard total, parce que, donc, comme vous le disiez, je traite plutôt la chanson française. Après, les attachés de presse avec qui je travaille, je m'envoie des choses, des fois. Et j'avais écouté un premier extrait donc, d'un album qui n'est pas encore paru, je crois, qui s'appelait Autostrada. Et en fait,
c'est ce qu'on va écouter.
C'est ce qu'on va écouter. Ouais. Et j'avais bien accroché à cette chanson, alors que, comme je vous dis, je ne parle pas italien, mais je pense que le sens de la chanson, je ne sais pas, m'a parlé, le fait qu'il y ait une mélodie hyper joyeuse et qu'on sentait que les paroles derrière n'étaient pas si joyeuses que ça. Voilà, et du coup, c'est vrai que quand on préparait cette émission, au début, tu m'avais dit « Ah, est-ce que tu voudrais inviter un artiste ?» Et j'avais fait « Mon Dieu, mais moi, je connais que des artistes français. » Et du coup, en voyant ça, je me suis dit « Ah, pourquoi pas, en fait ?» Voilà, c'est l'occasion de faire découvrir, comme on disait.
Voilà, et puis il va être avec nous pour quelques minutes qui nous restent. Mais voilà, c'est important aussi de le faire connaître. Roberto Cigogna, Autostrade.
Ma per essere normale, se vuoi essere normale, bada bene, di non dimenticare, se vuoi essere normale, per essere normale basta uscire. Ma per essere normale, se vuoi essere normale, bada bene. Di non dimenticare che bisogna lavorare per essere normale, bada bene. Qui non ci fanno lavorare, ma per essere normale voglio essere normale, normale. Ma io
Alors, on est content parce qu'on est avec Roberto Cigogna qui est, donc, est avec nous et c'est aussi quelqu'un que tu nous as dit mais je connais ce chanteur, je ne connais pas du tout moi j'avoue, et là on vient d'entendre Autostrade, il est avec nous. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Ça va
très bien vous.
Merci de l'avoir fait connaître. Deux mots sur Roberto.
Alors deux mots, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, donc Roberto donc, est milanais d'origine, il est installé en France depuis 12 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et je trouvais assez drôle, alors je ne sais pas si vos auditeurs le savent aussi, mais par rapport à l'YFM, en fait vous êtes quasiment dans le même quartier, donc je trouvais ça rigolo de montrer que Paris est un village d'immigration aussi. Donc il a commencé par chanter plutôt en anglais sous le nom de O'Pilot.
Yes.
Deux EP. Alors les EP, c'est disques courts. Je sais pas si voilà, on est entre un format entre 4 et 6 chansons en général. Et en fait, pendant le confinement, toujours si je dis pas de bêtises,
oui, tout à fait.
Il s'est remis à l'italien. d'où un disque en italien qui arrive. Et il est aussi, je précise, vidéaste et il réalise notamment certains de ses propres
clips. Ces vidéos, hein, on voit sur YouTube, on peut trouver des vidéos, Lucci notamment.
Exactement, c'est
j'ai
ça.
J'ai vu ça, Solon Café aussi. Donc des titres sympas qui racontent...
disons que tout l'album qui va sortir, qui sort en 2024, il parle, j'ai pris l'italien parce que je suis très bien à Paris, ça fait très longtemps que je suis là, mais il y a eu un moment où j'avais vraiment un peu envie de rentrer en Italie. Et du coup, je pense que ça a un peu joué quelque part. Et j'ai commencé à écrire en italien parce que j'avais un peu envie d'un côté d'être compris dans mon pays et de l'autre côté d'amener un peu plus de moi ici en France, en fait, c'est le pays qui m'a quand même un peu qui m'a accueilli ici depuis un moment, et j'avais un peu envie aussi de partager ça avec mes amis français, par exemple.
Alors, tu as un concert bientôt ?
Oui, le 18 novembre, je vais jouer au pop-up du label avec une super soirée italienne avec une artiste qui s'appelle Mirto, qui est grecque mais qui chante en italien. Elle chante super bien en italien. Et après, moi, je jouerai avec mon groupe toutes les chansons de mon album. Et il y aura, pour finir la soirée, il y a un super DJ set d'un duo qui s'appelle Les Fanfarons, qui met de la musique, mais aussi qui joue sur les chansons. Du coup, il y a un côté un peu live dans ce DJ set.
Quel endroit redonne l'endroit?
Pop-up du label.
C'est où?
C'est près de...
À côté de la gare de Lyon.
Voilà, exactement. Voilà.
C'est un lieu relativement récent. Donc, il y a un bar au-dessus. Et en bas, il y a une salle de concert où viennent souvent se produire des artistes émergents.
Ah, ben c'est rue Abel.
Tout à fait.
Mais oui, d'accord.
Vous êtes tous invités, hein, d'ailleurs.
Oui, je connais maintenant, finalement. C'est une petite salle, hein, une toute petite salle sympa.
Oui.
D'accord. Et voilà le fait que tu chantes en italien maintenant. Comment les gens ont accueilli ce changement?
Plutôt bien. Déjà, je suis très content que Léa ait découvert ma musique.
Tu peux remercier ton attaché de presse qui fait très bien son travail.
Oui, elle est très actif.
Eva, complètement. Eva, elle est superbe. Ouais. Et en tout cas, disons que c'est plutôt positif. Après, c'est un peu comme redémarrer quelque part parce que j'ai changé de langue, j'ai pris du coup mon nom et prénom comme nom d'artiste, alors qu'avant j'étais
Cicogne,
sur voilà. Ouais. Et du coup, c'est un petit redémarrage un tout petit peu, mais honnêtement, je suis très content de ce choix.
Bah, toujours un peu italien quand même, hein. Tu vas souvent en Italie, j'espère. Enfin bon.
Oui.
Alors oui.
Oui, j'y vais régulièrement.
C'est des passerelles.
Voilà.
À Milan, toujours à Milan.
À Milan, ouais. Voilà.
La ville même, non?
Oui, c'est ça.
D'accord. Milan ou Inter?
Milan.
Oh là là, heureusement que Francesco il est pas là parce que lui il est de l'Inter. Mamma mia. Ok. Alors la prochaine chanson, et voilà, donc c'est la chanson qui s'appelle Solon Café.
Yes.
Et dis-nous deux mots sur cette chanson.
Solon Café, c'est justement c'est une petite chanson qui parle d'un très bon moment après un petit moment qu'on a vécu une période de crise. On est vers la fin de la crise. Et je trouve qu'il y a souvent ce sentiment de ok, je suis à la fin du tunnel, ça va aller, mais j'ai envie encore un tout petit peu de rester un peu dans mes moments de doute, dans mes moments de crise, parce que je trouve qu'il y a toujours un côté un peu intéressant dans ces moments-là de la vie. Et Soleil nous café, c'est un peu ça.
Bon, tu reviens bientôt à Cappuccino, alors. Hein,
bien sûr.
Là, c'était juste un antipasto.
Un antipasto, exactement.
Grazie, Roberto.
Grazie à vous.
Tout de suite. Et puis, non, on dira quand même au revoir avec Léa dans 2-3 minutes.
Sono solo in un caffè, tocco il fondo, giro in tondo e penso a te dalla finestra. Tutto scorre in Pantarei.
E poi un condizionale.
Ma quali soldi? Quali mogli, quante amanti, quali figli.
sono sempre solo nel mio caffè, quasi quasi prendo il volo e volo da te. Mi hanno detto che si fa così. So che tanto finirà, so che presto non farà più male. Ci voglio solo pensare.
Voilà, c'est la fin de cette troisième partie. On salue Léa Bucci. Merci à toi.
Ciao.
J'espère de. Bah voilà, peut-être qu'on aura des collaborations, qui sait, avec toi pour Télérama. Et puis aussi Roberto Chicogne, qui reviendra bien sûr dans Cappuccino.
Un grand plaisir. Bien,
un concert le 18 novembre
yes.
à Rue Abel. C'est bien parce qu'on a deux minutes pour faire les imbéciles. Donc voilà, on vous remercie en tous les cas. On vous souhaite un beau week-end.
Un bon dimanche
encore dans certaines régions. Et puis cette semaine va être encore une semaine un peu venteuse et pluvieuse. Mais bon, vous saurez que par exemple dimanche à 8h, il y aura un grand soleil. Pourquoi ?
Bah parce qu'il y a Cappuccino.
Et donc ça sera ?
Mais à partir de 8h.
8h, et c'est toi, non ?
Bah oui.
Ah d'accord. Bon voilà, donc 8h, vous aurez Raphaël.
Avec
Enrico. Si. Au 42 rue de Montreuil, on rappelle, hein, si vous voulez venir, la porte est toujours ouverte. On vous salue, on vous souhaite plein de bonnes choses. C'était sympa, Léa Bucci, Riccardo Cigogne, et puis le lycée Buffon. Donc Buffon, attention, dis pas de conneries, toi, c'est Buffon.
C'est pas Buffon. Hein.
Non, mais moi, on pense tellement à notre ami Buffon, c'était tellement un gardien de grand renommée. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses, et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.
A tutti, buona domenica.